Vous êtes sur RTL.
Jusqu'à 9h15,
RTL Matin avec Jérôme Florin.
Allez, retour sur ces trois jours qui ont marqué à jamais l'histoire du rock. Du 15 au 18 août 1969 avait lieu un concert géant dans l'état de New York, le festival de Woodstock, du nom de la ville où il avait d'abord été envisagé. Et au même moment, à 6000 km de là, ce fameux mois d'août en France, un jeune ado, Philippe Manœuvre, se disait quoi ? Qu'est-ce que j'aimerais être là-bas ? Bonjour Philippe Manœuvre.
Mais... Bonjour, sauf qu'on a appris l'existence de Woodstock un an après, quand le film est sorti, parce qu'on n'avait pas les moyens de communication dément qu'on a aujourd'hui. Et cette année-là, en 69, il y a eu plein de gros festivals aux États-Unis. Il y a eu Atlanta Pop, il y a eu Dallas, Texas. Il y a eu beaucoup de festivals, mais Woodstock est resté, je crois, dans les mémoires parce que il y a eu une surpopulation à cause d'une affiche particulièrement alléchante. On attendait 50 000 personnes, il en est venu 10 fois plus. Ouais. 1,5 million de gens se sont retrouvés à Woodstock avec un orage démentiel qui a duré 3 heures le premier jour. Et donc après, ils étaient un peu sinistrés, les pauvres festivaliers. Et c'est la garde nationale qui les a secourus, qui leur a amené de la nourriture. Ils ont réussi à tenir. Et ils ont donné la preuve au monde que, voilà, grâce à leurs idéaux hippies, eh ben, ils allaient survivre et ils allaient vivre 3 jours extraordinaires. Et tout ça a été filmé par la Warner, monté par Martin Scorsese. Hein, et c'est ça qui a donné à Woodstock cette résonance pendant des années. Tous les groupes qui sont dans le film ont vu leur gloire exploser. Des gens,
donc la légende est née après. Voilà.
Et est née après,
il faut rappeler, Philippe Manœuvre, que ce festival est organisé dans un contexte très particulier. Hein. Les États-Unis sont en guerre contre le Vietnam, il y a des conflits raciaux.
Il y a cette jeunesse américaine, régulièrement, des gamins qui sont au lycée sont appelés et ils partent au Vietnam. Tous les jeunes en Amérique sont révoltés par cette situation, ils sont contre la guerre. Et d'ailleurs, le festival, l'affiche du festival disait 3 jours de paix, d'amour et de musique. C'était ça le 3 days of peace, love and music. Et ça disait bien, on est contre la guerre, quoi. 3 jours de paix à l'époque en 69. C'est un cri de guerre.
C'est un message fort, c'est pas mièvre.
C'est un message très fort, voilà.
Au début, l'idée, c'est de monter juste un studio d'enregistrement en plein air. Et puis, ça se transforme progressivement en concert. Mais l'idée de base, c'est d'abord, on enregistre des groupes en plein air. C'est ça l'idée de base.
Ouais. Et puis, l'idée, c'était de le faire à Woodstock, parce que Bob Dylan avait acheté une maison à Woodstock, il habitait là. Et tout le monde se disait, bon, bah, il va être séduit. Si on fait un grand festival à Woodstock, il va venir. Parce que Bob Dylan, c'était là une des trois stars les plus importantes de l'époque. Mais à l'affiche de Woodstock, il y avait des noms énormes. Il y avait Jimi Hendrix, il y avait Janis Joplin, il y avait les Who, il y avait Crosby, Stills, Nash & Young qui arrivait à l'improviste. Normalement, c'était Crosby, Stills, Nash et Neil Young a fait son premier concert avec eux ce soir-là. Enfin, il y avait vraiment, il y avait John Baez. Il y avait des groupes inconnus comme Santana qui n'avaient vraiment jamais donné de, qui étaient refusés par toutes les maisons de disques depuis un an.
Joe Cocker.
Ils sont sortis de scène à Woodstock, les contrats s'abattaient.
Ouais.
Joe Cocker,
inconnu aussi à l'époque.
Inconnu au bataillon et qui va faire cette version de With a Little Help from My Friends qui va changer sa vie. Parce qu'après, il a passé toute sa carrière à refaire With a Little Help comme à Woodstock. Hein. C'était un engagement quand on allait le voir en concert.
Mais justement, eux, ils ont dit oui, mais les Beatles et les Stones, ils ont dit non pour Woodstock.
Voilà, les Beatles étaient un petit peu déjà très, très avancés dans la séparation. Les Rolling Stones étaient en pleine répétition pour une tournée qui ferait en décembre. Donc, ni Dylan, ni les Beatles, ni les Stones ne sont là. Mais il y a Jimi Hendrix, il y a tous les autres. Et il y a des gens inconnus comme Richie Evans qui va démarrer le festival et qui va devenir une star énorme parce qu'il y a un orage, les groupes n'arrivent pas à rejoindre le festival.
C'est ça, il y a plein d'artistes qui restent coincés dans les voitures, qui ne pourront pas jouer.
Alors, les organisateurs vont louer 16 hélicoptères et qui vont faire la navette entre les motels où il y a les artistes et les amener sur le site du festival où parfois ils attendent des heures. Il y en a qui vont être sous de rage, comme les Creedence Clearwater Revival qui attendent 12 heures pour jouer. Et quand on leur dit il y aura un film, ils disent eh ben on veut pas être dedans, on s'en fout, on rentre chez nous. Et donc ils vont un peu rater ils ont raté l'histoire avec un grand H. Personne à ce jour ne sait que Creedence Clearwater Revival a joué et le concert va sortir dans une semaine. Il est commercialisé pour la première fois pour les 50 ans de l'événement.
On n'a pas parlé d'un sujet, Philippe Manœuvre. Woodstock, c'est aussi la drogue. Tout le monde est stone presque pendant 3 jours.
Il y a un gros nuage d'herbe et puis il y a des annonces dans la sono. Attention, si vous avez acheté de l'acide violet, il n'est pas très bon. Enfin, c'est tout ça. C'est avant les micro-communications de masse. Il n'y a pas de réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus dans la foule. Il y a des annonces entre les groupes. Roger, il faut que tu viennes rejoindre Marie à droite de la scène. Enfin, voilà. Mais il y a une entraide fantastique. Tout le monde cède. Tout le monde a envie que ça marche. On ne déplore pas de tragédie sur le site du festival. Il n'y a pas de bagarre. Tout se passe vraiment dans l'entraide. Des trucs des hippies, quoi. Ouais. Voilà, c'est des hippies. L'uniforme de Woodstock, c'est un blue jean, torse nu, les cheveux longs, et on fait la fête, quoi. On est là, on écoute le Grateful Dead, le Jefferson Airplane. On veut s'éclater avec ces 500 000 personnes qui sont là autour. C'est une caisse de résonance démente. La sono est fabuleuse. Et ça va donner à tous les promoteurs du monde l'idée de faire eux aussi leur festival, leur Woodstock. Quoi.
Qu'est-ce qui reste de ce mythe aujourd'hui, Philippe Manœuvre?
Tous les grands festivals, comme les Eurocliennes, les Vieilles Charrues, tous ces festivals qui sont un peu des petites cérémonies initiatives pour les jeunes gens qui partent à 17 ans avec leur sac à dos pour aller vivre un festival pendant 3 jours, vivre une grande aventure communautaire, tout ça, ça vient de Woodstock. Mmh. Après, il y a la libération de l'herbe dans certains pays, on peut dire que c'est un des legs de Woodstock, hein, malgré tout. Et puis, il y a le... Je sais pas, moi, je vois souvent sur Internet des analyses, des gens qui disent l'ordinateur Apple, il a été conçu par des gens qui avaient vécu Woodstock, qui connaissaient les idéaux de Woodstock et qui ont essayé de les mettre dans le téléphone ou dans l'ordinateur sur lequel ils travaillaient. C'est un état d'esprit, c'est une communauté, c'est des gens... qui aime la vie, quoi, voilà.
Vous avez essayé de retrouver cette vibration lors du concert que vous avez parrainé au Stade de France fin juin. 1000 musiciens réunis.
1000 musiciens, il est évident qu'on avait ça un peu à l'esprit. Voilà, quand on a fait Rockin' Mill au Stade de France, avoir 1000 musiciens qui jouent des morceaux rock de Led Zeppelin ou des Rolling Stones pour une foule énorme de 50 000 personnes. Oui, bien sûr.
C'était votre Woodstock à vous, Philippe Manœuvre.
Voilà, on essaye tous de faire notre petit Woodstock.
Bon, votre chanson emblématique de Woodstock pour finir, Philippe Manœuvre. Allez, si vous avez un titre.
Moi j'aimais beaucoup Going Home par Teenage Actor. Je trouve c'est un délire de 8 minutes qu'on pourrait plus passer à la radio aujourd'hui. Mais à l'époque, quand ça arrive dans le film, ça c'est formidable. Et puis, un autre truc personnel, Sly and the Family Stone. Ah, oui. Parce que c'était un groupe noir et blanc, avec mélangé, il y avait des barbés blancs et ils apportaient le funk. Et quand ils chantent We Want to Take You Higher, il se passe un truc. C'est tout l'avenir de la musique de danse, pratiquement, qui est là, à Woodstock. La musique telle qu'on la pratique aujourd'hui, telle que les gens comme Bruno Mars la voient, et c'est à Woodstock qu'elle est née, quoi, ce soir-là.
Et on se quitte là-dessus, grâce à vous. Merci de nous avoir rappelé tous ces souvenirs, Philippe Manœuvre, de nous avoir fait revivre à votre façon Woodstock. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci,
bonne journée.
Merci. Sly and the Family Stone. Et on accueille Cyprien Sini. Bonjour Cyprien.
Bonjour à tous.
Votre éphéméride, comme chaque matin cet été, que retenir en ce 15 août?
Faites l'amour, pas la guerre.
Ah bah oui.